À écouter les architectes du son, émission 100% rap, c'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les architectes du son.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Bienvenue à cette toute nouvelle émission de Conduite Antisportive, édition du jeudi 2 février. Gabriel Tremblay à l'animation et à ma gauche, Alex Fortin, directeur des sports ici à Chiz. Salut Alex.
Bon après-midi.
Bon après-midi, Colin. Ça fait quoi, une semaine, jour pour jour, heure pour heure qu'on a fait une émission de sport ensemble?
on l'est craqué pour la prochaine.
Ouais, c'est ça. On était dû. On était dû. Et vous comprendrez éventuellement qu'il manque un comparse, hein, un compatriote. On a perdu un soldat en cours de route. Il a été relégué. On dit non. Aux oubliettes.
Il a subi la relégation.
Ouais. Le coup près.
Félix-Antoine est allé un petit congé pour aller voir sa famille. Ça fait du bien.
À Terrebonne. Hein?
Bah, on n'était pas obligé de dire c'était où.
Ben, non, mais on l'a dit quand même. On lui souhaite de réécouter l'émission.
Si y a quelqu'un de Terrebonne qui nous écoute, on aime la ville, on n'y va juste pas.
Ouais. On s'entend Terrebonne reconnu pour son Wendy's.
Oui. Ouais. C'est vrai, c'est rare.
Les burgers carrés.
Un Wendy's au Québec. De
quand même, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. J'ai comme une barre en face. Okay, je te regarde là, t'es beau. Là. Ok, c'est parfait, ça marche. Yes. Mais oui, c'est rare les Wendy's. Terrebonne. Donc, Félix-Antoine Audet qui sera de retour à l'émission peut-être la semaine prochaine, si Dieu le veut, ou une autre instance au-dessus de nous. Là, on se gâte parce que on est juste les deux. Puis souvent, là, quand on commence à parler de ballon rond, de foot, Félix-Antoine dit « Ah, ben là, en tant que néophyte, j'ai des questions. » Puis là, ben on manque de temps. Donc, voilà.
Mais on apprécie quand même ces questions de néophyte parce qu'il répond quand même à un standard du Québec. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est fan de ballon rond, puis c'est correct aussi. C'est difficile d'aller chercher l'information pour la plupart du temps. Alors, ces questions de néophytes sont toujours les bienvenues parce que ça nous remet en place aussi.
Tout à fait.
Mais aujourd'hui, comme il n'est pas là, on va se laisser aller.
On va pousser un petit peu plus.
Oui, un petit peu plus. On va pousser la science. C'est le cours 102 de ballon rond aujourd'hui.
Tout à fait.
Gabriel, tu m'as envoyé une liste avec quelques sujets que tu voulais aborder.
Ouais, entre autres, mais on peut déborder, on peut en couper aussi, mais parce que le mercato bat son plein, il vient tout juste de finir, ou en tout cas là, ça, pour le mercato en Europe, dis-je bien, parce qu'en MLS c'est autre chose.
Ça se termine au mois d'avril en MLS.
Ça commence à peine. Là,
exactement.
Ça. Donc ouais, le mercato d'Europe qui... On ne peut pas passer sous silence l'apport, les dépenses onéreuses du club londonien Chelsea en Premier League en Angleterre parce qu'ils ont, dépensé plus d'argent que les clubs de Liga espagnole au grand complet et les clubs de Bundesliga en Allemagne au grand complet.
J'ai les chiffres devant moi. Alors, on parle d'une somme de 611
millions
d'euros.
Millions d'euros. Et je pense qu'en Liga, c'est 500 millions dépensés par tous les clubs, puis la Bundesliga encore moins, 400, genre.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Bref,
c'est en fait là pour rappeler aux gens, Chelsea a un nouveau propriétaire,
ouais.
Qui semble signer des chèques en blanc, comme si la comme si l'argent n'existait pas.
Ouais, c'est ça.
C'est difficile de comprendre le montage financier derrière cet achat là.
Ouais.
Peut-être qu'on pourrait le demander à l'entrevue pour avoir des questions, mais blague à part, pour juste pour souligner, c'est ouais. Juste en janvier là, c'est 329 millions. D'euros.
Le jeune Ukrainien Mudryk, qui oui. A coûté 100 millions, je pense.
Oui, et hier, Enzo Fernandez a été confirmé.
106 millions.
121 millions d'euros.
Mais en livres sterling, OK.
C'est 106 millions de livres.
Ouais.
On a eu Mudryk, bon du Shakhtar, à 70 millions d'euros.
Ouais.
Et là, ça va être toujours être en euros, ouais, la devise. Exact. On a Badiachile de Monaco à 38. Mm-hmm. Madueke du PSV, 35. Gusto de Lyon, 30. Et ainsi de suite.
Écoute, je pense que Chelsea a trois clubs de Premier League qui... serait dans le top 10.
Et on a un transfert sortant, donc on a seulement encaissé 11 millions.
Il y a Jorginho, qui vient ouais. Tout juste de partir.
Ouais, il venait tout juste d'arriver aussi.
Oui, quand même, pour Arsenal.
Oui, exact. Une excellente signature pour Arsenal.
Vraiment.
Wow.
Arsenal qui est d'ailleurs le meneur en Premier League cette année. 5 points devant Man City.
Ça va être excitant pour la fin.
Ouf, oui, quand même. Hein.
Et si on revient à cet été, Chelsea avait signé bon, Wesley Fofana de Leicester ouais, pour 80 millions.
Défenseur central.
Ils ont payé beaucoup trop cher pour Marc Cucurella de Brighton à 65 millions. Vraiment. Après ça, un autre 56 millions pour Raheem Sterling, qui est un excellent joueur, mais perdu un petit peu de pointe de vitesse depuis. Napoli, bon, on a acheté Koulibaly pour ouais. 38 millions, bon, et ainsi de suite. Alors, ça nous donne un 600 millions de dépenses.
Reece James.
Et un maigre 56 millions de ventes. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour Chelsea? On a une congestion partout. On n'a pas été capable de se débarrasser en prêt de Ziyech
ouais,
au PSG.
Hakim Ziyech, c'est vrai.
C'est tombé à la toute dernière minute. Le fax n'a pas été envoyé à temps. Alors, Ziyech
un
est...
fax, hein?
Un bon... Ils utilisent encore les bons vieux fax à l'âge de la technologie.
Aberrant.
C'est aberrant, hein?
On va dire, le club dépense pour 600 millions, mais on utilise des fax.
Mais je pense que la plupart des ligues, même la Ligue nationale de hockey, là,
ça se faxe encore.
Ça se faxe encore. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de côté officiel relié là, au papier transféré par fax. Mais tu sais, de nos jours, on a les Adobe Sign ou bon, les logiciels où
oui.
Tu peux.
DocHub.
Officialiser des documents, les encrypter, peu importe, mais oui. Non, on fonctionne avec un fax.
Aïe, 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 quand même fou. Écoute, je vais nommer l'effectif de Chelsea un peu là, de long en large parce que c'est effectivement très congestionné, comme tu l'as dit. Il y a Ofélix dans l'aile droite. De son côté, il y a Madueke aussi et Fofana. Après ça, en pointe, on a Aubameyang qui est toujours là encore avec Havertz, qui est l'Allemand qui coûte aussi des millions et des millions. Raheem Sterling, hein, qui vient d'arriver aussi avec Mudryk et Pulisic. Cette position-là dans l'aile gauche, ça n'a pas de maudit bon sens.
Ah, on est allé chercher João Félix aussi en
ben
prêt.
Oui, c'est un prêt, ouais. Mais avec option d'achat.
Ouais.
Option d'achat à sûrement 100 millions. Là. En tout cas. donc voilà. Sinon, au milieu, c'est aberrant aussi. Kovacic, Mateo Kovacic, le Croate avec Robin Loftus-Cheek. Puis on a Chukwuek. Meka aussi dans la même position, Enzo Fernandez qui vient d'arriver, Zakaria puis Kanté, hein, N'Golo Kanté qui est toujours là, qui est probablement un des seuls vétérans dans l'équipe ou presque avec Koulibaly puis Thiago Silva. Mason Mount sinon en 10 avec Gallagher et André Santos. Après ça, tu l'as dit tantôt, Cucurella dans l'aile, dans la défensive gauche, Chilwell, Ben Chilwell aussi qui est excellent, et on a un jeune Hall à l'aile que je connais pas, Koulibaly, Badiachile, Humphries aussi. Le néerlandais, défense centrale, après ça t'as Thiago Silva, Wesley Fofana et Chalobah, Timothée Chalobah, un anglais je pense, et dans l'aile droite, ben en fait dans la défensive latérale droite, Reece James et César Apsilicueta, un autre vétéran dans l'équipe, puis ben Mendy et Kepa dans les filets.
Alors ça Gabriel, c'est 22-24 joueurs
ouais.
Capables d'être partants dans n'importe quel club de la première ligue.
C'est capoté.
Alors Chelsea, bon, est encore impliqué dans la compétition de la Première Ligue. Mais si on va plus loin...
Ouais, mais Chelsea est juste 10e au classement. Là. J'imagine que ça va effectivement
Chelsea
augmenter.
Chelsea joue contre Borussia Dortmund bon, en Ligue des Champions le 15 février. Ça s'en vient vite. Mais si après, ils sont éliminés, Il ne reste qu'un seul tableau pour Chelsea. Une seule compétition, c'est la Première Ligue. Qu'est-ce qu'on va faire avec autant de joueurs?
Ben écoute, la Première Ligue, c'est pas joué, mais presque pour Chelsea. On peut finir peut-être au mieux 4e ou 5e. Mm-hmm. Là. On est à 20 points d'Arsenal avec un match de plus de joué.
Souvent, avec autant d'argent dépensé, se qualifier pour la Ligue des champions, c'est impératif.
Là, ils vont se qualifier pour l'Europa.
En terminant 4e.
Ouais, probablement. 5e, peut-être. Je vois Tottenham aussi, qui est à 36 points. On est loin, là, Chelsea. Là. Ça va prendre tout qu'un revirement de situation.
Parce que quand on regarde la situation au milieu, là, comment veux-tu aligner Enzo Fernandez, Mateo Kovacic, Kai Havertz, Mason Mount à la fois, c'est impossible.
Et comment tu veux les développer aussi? Comment tu veux leur donner du temps de jeu de qualité?
Pauvre Connor Gallagher, 22 ans, qui n'attend que ça, une opportunité pour jouer, puis il a démontré des belles choses depuis le début de l'année, mais il va être confiné au banc, puis j'ai envie de te dire à la galerie de presse.
Mais même chose pour les deux défenseurs centrales assez jeunes, là, français Badiachile puis Fofana, qui viennent d'arriver, puis... sont pognés derrière des vétérans, là, t'sais, Humphries, Koulibaly, puis Thiago Silva. Je comprends pas en tout. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à pas comprendre.
C'est difficile à expliquer parce que le niveau de compréhension est assez faible. Uh-huh. Écoutez, ça va sûrement devenir un roman savon où il va y avoir plusieurs agents qui vont demander des faveurs pour leurs joueurs, peut-être demander des départs déjà dès le mois prochain.
Ouais, puis j'ose croire qu'il y aura plusieurs prêts là-dedans dans ces achats-là. Chelsea, par contre, a toujours fait ça. A toujours eu beaucoup de joueurs en prêt un peu partout aux quatre coins de l'Europe. Des jeunes joueurs à développer. Tu sais, ce fut une époque.
Mais rappelle-toi que dès l'an prochain, le nombre de prêts sera limité par équipe. Je pense que le chiffre, c'est 7. Alors, 7 prêts maximum par équipe. Alors, Chelsea ne pourra plus avoir de pépites satellites peu partout en Europe. Va devoir les garder avec eux.
Aïe, aïe, aïe. Hein?
Et si je suis un joueur de l'Académie qui joue pour les U23...
Oh, c'est décourageant.
Je me cherche un club.
Bah, ben, c'est sûr.
Sur le champ.
Va-t'en au Portugal. On va avoir du fun un peu ailleurs. Non, c'est ça. Restons en Angleterre parce que c'est une histoire, j'espère qu'on aura un film éventuellement dans quelques années là-dessus, sur l'histoire de Will Steele, entraîneur de Stade de Reims, en France, en Ligue 1 d'ailleurs. Will Steele qui, contrairement à tous ses homologues, n'a pas ses cartes pour coacher professionnellement parlant.
A certaines certifications, mais il n'a pas la certification pro. Alors, ne peut pas être entraîneur, manager, comme on dit en Europe.
D'un club professionnel. D'un club.
Il peut être assistant coach.
Ouais.
Il peut participer à l'effort de plusieurs façons, mais ne peut pas être le coach en chef, le manager.
Sa dernière job avant ça, c'était de coacher les U14, donc les moins de 14 ans, à Nottingham Forest, si je me trompe pas. Donc, ce gars-là sort de nulle part et il a, gagné son expertise en jouant à Football Manager, que tu connais, Alex, que tu joues à l'occasion.
Pour les gens, le Football Manager est un jeu de totale simulation. Sur le football, partout dans le monde. Toutes les ligues y sont, tous les joueurs y sont. Toutes les contraintes y sont aussi, là, c'est-à-dire le taux de change, les règles d'immigration. On peut penser aussi là, à tout ce qui est transfert et ainsi de suite. Et c'est un jeu extrêmement complexe, surtout quand on s'y adonne justement dans des équipes où on joue sur plusieurs tableaux, où il y a des budgets à gérer. Il s'est fait la main en jouant à ça. Il a surtout commencé à s'intéresser de manière professionnelle au soccer, à la job de manager, en jouant à ce jeu-là.
Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est en fait le niveau tactique de ça. Tu sais, où tu peux te pratiquer en simulation, mais de gérer un entraînement, c'est autre chose, tu sais. Puis évidemment, il y a des directeurs techniques, puis il y a du staff autour de lui qui sont probablement plus outillés que lui en ce moment, tu sais. Puis au final, dans Football Manager, il y a certainement plus de tâches dans le jeu que ce qu'il y a en ce moment, lui, personnellement.
À 100%, parce que dans Football Manager, en plus de gérer les transferts, tu gères les entraînements aussi, tu ne les fais pas. Mais tu gères l'horaire d'entraînement. Le joueur, par exemple, va aussi gérer l'académie, va gérer, en fait, tout le club, comme si le joueur était le directeur général du club. Tandis que quand quelqu'un est manager, parfois, on ne s'occupe même plus des transferts. On a toujours un directeur technique ou un directeur général, peu importe l'appellation. Alors oui, il a moins de tâches. Mais justement, un jeu comme ça te permet d'acquérir une globalité, une compréhension globale.
Du milieu.
Du milieu, de la chose. gestion des joueurs, ouais. Tu sais, un petit peu, parce que veut pas, il y a quand même des réactions qui sont intuitives dans le jeu. Donc,
ouais, j'imagine.
Donc, j'imagine que tu vois venir les choses un petit peu plus rapidement. Mais c'est vraiment impressionnant parce que.
Ce gars-là a mon âge. Ben, il a 30 ans, 29 ou 30 ans, je sais pas. Il a
30 ans.
OK, bon.
Il est né en 92 en Belgique, mais ses parents étaient anglais.
Okay.
Il a occupé différents postes là, avec plusieurs clubs, dont le Standard de Liège, Beerschot, mais c'était jamais comme entraîneur-chef.
Ben, c'est ça, au moins il y a une certaine expérience quand même. Il sort pas de totalement nulle part.
Il ne sort pas du jeu vers le terrain à 100%, il n'est pas devenu manager du jour au lendemain.
Non, c'est ça.
Quoique c'est déjà arrivé, il y a déjà des joueurs de Football Manager qui ont été engagés comme directeur technique de club, consultant pour bon trouver des joueurs, aider avec le dépistage, avec le scouting. Mm-hmm. Mais vraiment une histoire comme ça, c'est rassurant, ça montre quand même que quelqu'un peut faire son chemin puis démontrer des aptitudes, les développer ailleurs que dans le milieu traditionnel, c'est-à-dire de jouer et d'aller coacher après, parce que exact. C'est souvent ce qui se passe au soccer, au hockey ou peu importe le sport.
Ouais. On sent que le sport est un peu plus accessible, puis là on vient de parler de Chelsea qui dépense 600 millions, tu sais, sur une autre planète, mais non. Puis le plus drôle dans tout ça, ce qui me fascine le plus, c'est que Reims tient tellement à garder ce coach-là qu'il paye 25 000 $ en amende à chaque match que ce gars-là coach parce qu'il n'a pas son accréditation pro, il n'a pas sa certification d'entraîneur.
C'est fou à ça, si on fait le décompte des matchs, il reste peut-être une vingtaine de matchs jusqu'à la fin de l'année. Faites le calcul, on est à 400 000 $ là.
Pour un club comme Reims qui n'a pas beaucoup de sous. Là.
Exact.
C'est fascinant.
C'est fascinant. Puis une petite anecdote, ouais. il était l'assistant de Hernan Losada, le nouvel entraîneur du CF Montréal,
ben oui.
Avec Beerschot en deuxième division, lorsqu'ils ont obtenu la promotion en 2017-2018.
Wow!
Ouais.
Ah, je savais pas.
Et quand il était promu, Losada voulait absolument
qu'il vienne avec
conserver Will Steele. Il a même essayé de l'amener à DC United, mais Will Steele est resté en Europe pour faire sa certification. Qu'il n'a pas encore terminé.
Oh, wow! J'adore. Ça me fait trop penser à Moneyball.
Oui.
C'est un consultant qui est spécialisé en stats avancées. Tu sais, ce genre de gars-là.
Exactement.
Franchement, bravo Will Steele. On te salue.
Oh, on va le suivre. On en reparlera dans les émissions au courant de la saison.
Mais oui.
Parce que Reims pourrait peut-être faire une avancée dans le classement.
Puis peut-être même compétitionner pour l'Europe. Peut-être même une Europa, qui sait.
Ce serait intéressant,
ben,
mais c'est
10e ou 11e au classement.
Mais c'est plus difficile en France parce qu'il y a moins de places attribuées automatiquement.
Je te dis ça, là. Il y a trois places disponibles. La 3, la 4 et la 5. Les deux premiers clubs en Ligue 1 sont automatiquement promus à la Ligue des Champions. 3, 4, 5, c'est pour l'Europa. Fait que c'est possible. La 5e, je me dis, hey, ils sont à 11 points de Stade Rennais. Ça se fait.
Tout est possible en France, mais c'est un championnat quand même assez ouvert.
Ouais, c'est
à part le PSG, tout le monde est capable de se qualifier dans les 10 premiers.
Lyon, Marseille, comme ton top 3 officiel. Lille. Mais ouais. Ouais. Je vais sauter quelques sujets, Alex, pour parler de Leeds. On retourne en Angleterre encore. Leeds, qui est un club assez historique, avec une bonne feuille de route, mais qui a pas été en Premier League très souvent dans les années 2000-2010.
Quand même, plusieurs fois champion dans les années 60-70.
Ouais, un club avec beaucoup d'histoire. Ouais. C'est un peu comme le Canadien. Hein?
Un
parallèle pour que vous reveniez ici, là, les amateurs de hockey.
Non, c'est les Canadiens du
l'Angleterre. C'est ça. On vit dans le passé à Leeds. Mais là, par contre, l'avenir est quand même genre doré-cuivré, là, tu sais.
Depuis 5 ans, ça va extrêmement bien pour ce club-là. Ils étaient en deuxième division quand ils ont signé Marcelo Bielsa, le sélectionneur argentin. Bon,
controversé,
mais un petit peu une légende.
Ouais,
un peu. Suramené un jeu vraiment intéressant, tellement que les fans, ça leur dérangeait pas de rester en deuxième division parce qu'à quel point le jeu était intéressant, était beau à voir sur place.
Hyper offensif,
des joueurs en mouvement, beaucoup de liberté offensive comme tu viens de le mentionner. Et là, l'équipe, depuis 3 ans, est en première ligue.
C'est hot.
C'est cool et ils se maintiennent en milieu de tableau.
Mm-hmm.
Et ils ont un entraîneur que vous connaissez peut-être, un Américain, en Jesse Marsh, le premier entraîneur de l'Impact.
Du CF Montréal.
Du CF Montréal aujourd'hui.
Jesse s'est promené pas mal les dernières années quand même. Il est allé à Leipzig, il a fait Salzbourg aussi, les deux clubs de Red Bull. Il a fait Red Bull New York. Finalement, il a fait la triade du Red Bull.
Il a quand même fait son chemin lui-même à l'intérieur de la filière. De la filière Red Bull.
Il était un peu aussi dans l'équipe nationale américaine, je pense.
Oui, mais jamais plus loin qu'assistant entraîneur ou consultant.
Ouais.
Je pense pas que ça l'intéresse. C'est vraiment un gars de club.
Ouais, je pense que oui.
Mais pour revenir à Leeds, c'est ça, Jesse Marsh est l'entraîneur-chef. Et il y avait déjà deux Américains dans le club. On avait...
Tyler Adams.
Il l'avait déjà coaché
Salzbourg, à Leipzig.
À Leipzig. Ouais. Ça n'avait pas très bien été, en fait, pour Jesse Marsh à Leipzig.
Pas. Ça avait bien été à Salzbourg, un an ou deux. Puis...
Totale domination de l'Autriche. Mm-hmm. Alors, Jesse Marsh est aussi allé chercher Brendan Aaronson à Philadelphie.
Un milieu offensif que tu aimes bien.
Il est bon. Il est grouillant. Je trouve que c'est un joueur qui est toujours impliqué à toutes les fois qu'il embarque sur le terrain. C'est pas le plus talentueux, mais c'est quelqu'un de très, très, très agressif.
Il y a du chien,
vraiment. Et ils sont allés chercher, durant les dernières journées du Mercato, à la Juventus, l'Américain Weston McKennie.
Une vedette montante de l'équipe nationale.
En prêt, mais avec une option d'achat de 30 millions.
C'est de la grosse monnaie là, pour Leeds, quand même.
Alors, les Anglais, les fans de Leeds... sont contents, mais se posent un petit peu de questions. Leeds, est-ce que c'est rendu le club des Américains? Est-ce que c'est rendu Leeds USA? Dans quel état on mettrait ça, Leeds, au Vermont?
Leeds, peut-être plus l'Oregon.
L'Oregon?
Ouais, je trouve que c'est très côte ouest.
C'est vrai, t'as raison.
Il faut un peu penser à Seattle.
C'est vrai.
Je sais pas, mais en tout cas, je dis ça, pure spéculation utopique.
Mais est-ce qu'on pourrait voir d'autres Américains débarquer à Leeds pour jouer sous la gouverne de Jesse Marsh?
Ouais, peut-être. Et Jordy, là, après les Pays-Bas, ce serait le fun. Ouais. Là, c'est possible.
C'est possible, et Georgi Mihalovic...
je spécule aussi, mais Giorgio Reyna... Giovanni Reyna
qui est à Borussia Dortmund.
Qui joue pas tant que ça en plus. Là.
Il est toujours blessé, mais il a quand même marqué deux buts à ses deux derniers matchs. C'est toujours des séquences pour Giovanni Reyna, mais le talent est incroyable. Ouais. Ça va coûter cher de le sortir de Dortmund.
C'est sûr. Pareil pour Serginho Dest. Là. Ces gars-là sont...
Un petit peu overrated.
Oui, tu trouves,
Ouais.
Il est jeune, par contre.
Il est jeune. Très, très, très offensif. Aucune qualité défensive.
Non, c'est ça.
Je pense qu'il a toujours été protégé par le fait qu'il joue pour des clubs extrêmement dominants. Un peu comme Alphonso Davies.
Ouais.
On connaît pas vraiment sa valeur défensive parce que son équipe a toujours le ballon.
Il y a ça, effectivement. Bref, Dest me fait un peu penser à Alexander-Arnold à Liverpool.
Ouais, un peu.
Très rapide. Des fusées dans l'aile, mais effectivement, beaucoup de lacunes en repli puis en marquage. Ce qui est le cas avec beaucoup de défenseurs latéraux.
On leur demande de plus en plus d'être offensifs, d'être impliqués dans le jeu, de couvrir leur aile au complet.
Surtout à droite, on dirait. Ouais. À gauche, t'as plus des stay-at-home, là, des gars qui se parquent le bus là, un peu plus, mais je comprends pas pourquoi à droite, c'est comme ça, ça y va. Système, hein, c'est comme ça. Mais oui, en plus, un beau petit club, Leeds. Ils ont un Espagnol que j'aime beaucoup en pointe, là, Rodrigo.
Oui.
Une fusée, lui aussi, puis il vieillit quand même bien, en tout cas. Ça va être à suivre. C'est un club que j'aime bien, Leeds. Ils ont aussi Jack Harrison.
Oui, Jack Harrison qui avait été repêché en MLS par New York City FC.
J'ai beaucoup aimé le portrait de ce gars-là qui n'avait pas vraiment de place en Angleterre, a décidé de prendre sa chance avec New York. Sa mère, il a dit « Hey, va donc essayer de voir ailleurs. »
Il est allé à l'université américaine.
Oui, c'est ça. Il dit « Hey, fuck off, je me refais une autre vie, je vais aller jouer aux States, puis juste comme, pas casual, mais je vais prendre moins ça au sérieux, je vais arrêter de me fixer des attentes que je suis pas capable d'atteindre, justement. » Puis sa mère l'avait fortement conseillé à aller aux États-Unis, puis finalement, I guess, ce fut vraiment une vedette pendant une saison et demie avec le New York City FC. Après ça, transféré à
avait été
à
le premier choix de la super draft de la MLS.
Ouais,
bon,
beaucoup d'attentes.
Mais la crème est remontée à la surface. C'était clairement quelqu'un de qualité qui n'attendait que d'avoir sa chance. Il l'a eu. Puis ça a été quand même, comme tu dis, une ascension assez vertigineuse.
Oui, parce que passer de rien pantoute au collège américain à Manchester City en quoi un an et demi, bravo. Après, New York City puis Man City, c'est vraiment les mêmes propriétaires quand même. Donc, le lien est plus facile en soi. Mais après, il a été prêté puis ses prêts ont été fructueux.
Jack Harrison est rendu à 26 ans, quand même une valeur estimée à 25 millions d'euros.
Ah, c'est bon.
Il s'est bâti une belle carrière, Jack.
Franchement.
C'est franchement impressionnant. Comme tu dis, il y a des joueurs attachants dans cette équipe-là. On peut penser à Marc Roca qui était avant avec un milieu défensif qui était avec le Bayern. Bon, on n'a jamais vraiment eu sa chance parce que le club est trop pacté, comme on dit. Maximin Weber aussi qui jouait à Salzburg. Oui. Bah, Jesse Marsh allait chercher quelques-uns de ses chouchous, ses préférés. C'est normal. C'est normal. C'est vraiment impressionnant de les voir aller. Puis les matchs sont super cool à écouter parce que le style de jeu à Jesse Marsh, c'est attaque, beaucoup d'intensité. Même si le match est 3-1, là, restez à l'écoute. Parce que les matchs changent hyper rapidement. Ce qui est rare. Ce qui est vraiment rare à ce niveau-là.
Quand même. Faisons le tour, Alex, si tu le veux bien, des derniers transferts en Europe. Puis après ça, on va arrêter de parler de foot parce que là, c'est assez quand même. bref, il y en a eu tellement. C'est un peu vertigineux. Là. J'en ai des sueurs froides juste à regarder la liste. Je vais défiler. Dans mes préférés, OK, transfert gratuit de Hector Bellerin de Barcelone à Sporting au Portugal.
J'ai de la misère à me faire une idée par rapport à la raison de ce transfert-là.
J'adore Hector Bellerin, je sais pas pourquoi.
Mais je l'adore aussi, mais encore encore des mauvaises finances pour Barcelone.
Ouais, ben c'est ça. Ils gèrent mal leur...
Ils ont 1 milliard de dettes estimées.
On donne des joueurs de talent, c'est ce qui se passe.
Comme ils ont fait avec Antoine Griezmann, de signer 100 millions pour finalement le reprêter à l'Atlético deux, trois fois. On n'ira pas trop profondément dans le sujet, mais c'est une gestion hasardeuse.
Un drôle de club, Barcelone. Dans ce qui a fait le plus parler dans les derniers jours, entre autres, João Cancelo, un autre défenseur latéral portugais qui a été transféré de Man City au Bayern. Grosse prise quand même pour le Bayern, qui ont déjà un club bien nanti.
Je pense que le Bayern voulait donner des petits breaks, comme on dit, à leur latéraux, parce que Davies prenait toutes les minutes.
Ouais. Est-ce que Pavard est encore là? Hernandez.
Théo Hernandez est encore là, mais il s'est blessé. Pavard est encore là aussi. Mais on avait besoin d'aide pour les défenseurs latéraux parce que, bon, je prends Alfonso Davies en exemple parce qu'on le connaît, mais il s'occupait de pas mal toutes les minutes. Là.
Ouais, c'est ça. Exact. Sinon, dans les grands noms... Il y en a eu plusieurs. Keylor Navas aussi, le gardien qui retourne en Premier League, s'en va à Nottingham Forest, justement. J'adore ce gardien-là, costaricain. Il y a des années de vécu. Real Madrid est excellent aussi.
Tellement sous-estimé.
Ouais.
Parce que pas vraiment joué toujours avec le Real, n'était pas non plus le gardien de prédilection au PSG. Là, la chance d'être le gardien du club.
Ouais. Puis il a eu quoi, genre 35 ou 36 ans.
T'es encore capable, surtout ballon au pied, c'est un des meilleurs gardiens en Europe.
Ouais, effectivement. Je regarde dans les noms que j'apprécie particulièrement. Là, Marcel Sabitzer, qui est passé du Bayern
à Manchester United.
Ouais, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Joueur autrichien, joué beaucoup en Allemagne de mémoire, je pense, avec justement le Red Bull de Leipzig. Excellent aussi, offensif, mais se replie très bien, très bon milieu. Il joue à plusieurs positions, je pense qu'il jouait même en défensive il y a quelques années.
Ouais.
Il joue à peu près partout.
Ouais, c'est un bon outil à avoir là, dans ton coffre.
Genre de 6 milieux défensifs, qui est genre relayeur aussi.
Puis avec la perte d'Eriksson pour les 3 prochains mois, ça devenait impératif pour Manchester United d'acquérir un autre milieu, mais un milieu polyvalent. Polyvalent dans les schémas, parce qu'on a des joueurs qui sont à cette position-là, très statiques.
Ouais.
Fred, McTominay.
Ouais, c'est clair.
Est-ce qu'on peut faire confiance à ces joueurs-là à toutes les semaines, à tous les jours, à tous les matchs? J'en doute. Alors, non, c'est vraiment une belle acquisition.
Effectivement. plus près de chez nous un peu, évidemment, le transfert de Joachim Torres qui était officialisé, mais ça fait quand même ça fait presque une semaine déjà.
Oui.
Donc, Joachim Torres qui s'en va à l'Union de Philadelphie pour près de quoi? C'était 800 000 $ en argent général, c'est ça à peu près?
Ouais. Ça pourrait monter jusqu'à 800 000 avec des bonus de performance.
À suivre. Oui, je voulais parler de Matheus Tété, brésilien qui joue au Shakhtar. Le Shakhtar en Ukraine, à Donetsk, qui est une pépinière à joueurs brésiliens, même qui en naturalise à certains moments. Les joueurs brésiliens deviennent des Ukrainiens du jour au lendemain, pouf comme ça, on sait pas trop pourquoi. L'équipe nationale est bien contente, mais donc Matheus Tété, un joueur que j'aime beaucoup, dans l'aile droite, très jeune, 21 ans. S'en va à Lyon, non, à l'Est Leicester, c'est vrai, je me trompe de club. Leicester, ouais, en Premier League aussi. Un prêt avec option d'achat. Je pense qu'il y a une affaire de 20-30 millions.
Des petits montants.
Ben, il y a plusieurs années, c'était des énormes montants. C'est fou quand
puis
même.
C'est rendu la normalité.
Ouais, c'est rendu des joueurs ben, pas ordinaires, mais c'est quand même, en tout cas.
Il y a une inflation dans le. On pourra en parler des heures, mais il y a une inflation dans les coûts de transfert créés surtout par l'argent des Qataris, ah, bon, ouais. Des Émirats, bon, ouais. Du pétrole en fait.
Ben, c'est ça, exactement. Donc, c'est ce qui conclut la portion soccer de cette émission de conduite antisportive. On va écouter Tire le Coyote, un artiste que j'aime bien, Benoît Pinette de la ville de Québec. Avec la pièce Les couleurs de notre équipe. Donc, toujours en thématique musicalo-sportive. Voilà. Restez là sur les ondes de Schiz 94.3.
Fuckers on the side. On reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Schiz 94.3.
Maintenant, LSDJ7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Schiz 94.3 FM.
Tu dévores les journaux? Tu te régales de politique? Tu salives lorsqu'on te parle d'actualité? Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
The following program is a disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h. Chiz 94.3.
D'écoute!
Vous êtes de retour à Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 15h33 et ben on va faire une chronique un peu différente de ce que je fais d'habitude. Au lieu de faire « Que sont-ils devenus », ce sera « Que vont-ils devenir ». Donc, on va parler de joueurs, pas nécessairement prospects ni en devenir, mais des joueurs qui ont des... qui arrivent à une plaque tournante dans leur carrière. Donc, un moment charnier, disons ça. Un moment important où ils auront des soit des décisions à prendre ou une progression à embarquer sa deuxième vitesse.
Alors,
disons ça de même.
Arrête de nous tenir en haleine et dis-nous
des noms, là, c'est ça. Hein?
Qui parlerons-nous?
Puisqu'on va éventuellement parler de hockey à l'émission, je commence le bal avec Philippe Messard. Que vont-ils devenir? Que va-t-il devenir Philippe Messard? Choix de deuxième ronde du Canadien au dernier repêchage. Mm-hmm. Fin de première ou?
Première ronde.
Fin de première ronde.
C'était le deuxième choix de première ronde du Canadien.
Après Juraj Slafkovský, son compatriote.
Oui.
On a vu Philippe Messard à l'œuvre au dernier championnat mondial de hockey junior, entre autres. Mm. Il a bien fait au camp aussi en début de saison. Franchement...
T'es arrivé en forme au camp, ça paraissait, il était grouillant sur la glace.
Grouillant! Il faisait des grouillades.
Il était intense, gagnait ses batailles un contre un. Physiquement, on voyait qu'il allait avoir sa place un jour dans la Ligue nationale de hockey.
Un jour. Le kid de 19 ans.
Mais parle-nous un petit peu de sa saison à Kitchener.
Ben, c'est là que je lève des points d'interrogation, peut-être. Il y a presque un point par match, certes. Dans le hockey junior, pour un joueur de talent, c'est pas terrible. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. 12 buts, 15 passes avec Kitchener. Il a commencé la saison à Laval. Il y a quand même une période de transition où il n'a rien fait aussi. On l'a envoyé à Laval, puis OK, ben il a joué un match. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Renvoyé à Kitchener dans la Ligue junior de l'Ontario. Par contre, il faut quand même lui donner une certaine période d'adaptation, une période tampon où il n'a jamais joué dans le hockey junior en Amérique du Nord. Il avait joué en Slovaquie avant. Tu sais.
Exactement. Cette période d'adaptation-là, ces changements-là sont difficiles à voir venir, à interpréter sur le moment parce que chaque joueur est différent. Il y a des styles qui s'apprêtent plus à la glace nord-américaine, d'autres un petit peu moins.
Il faut être physique un peu plus. Surtout en Ontario, ça frappe quand même pas mal.
Ouais.
J'imagine un peu plus qu'en Slovaquie à Poprad. Là, tu sais.
Il faut être la protection de rondelle est d'autant plus importante parce que bon, il y a moins de glace, il y a moins d'espace.
Pour un gars qui a un coup de patin très fluide puis une bonne accélération, tu sais.
Mais il a tout ça, Philippe Messard, si vous vous rappelez au championnat du monde junior durant la belle période des fêtes,
il a très bien fait,
il a été un leader pour la Slovaquie. On le rappelle, il a seulement 18 ans, a tué beaucoup de pénalités.
c'est sa fête, non? Attends une minute, Alex.
Il est né le 3 janvier.
Il vient d'avoir 19 ans, c'est pour ça.
Alors, il avait 18 ans durant le championnat du monde junior.
Ouais.
Tu as eu beaucoup de pénalités, tu bloquais des lancers. On voyait qu'il était très intense.
Il aura la chance de jouer l'an prochain encore au championnat de hockey junior.
Ouais.
C'est ce qui est hot.
Ouais.
Puis il sera certainement.
Peut-être le capitaine de l'équipe.
Ben, ce sont un des leaders.
Alors, les points ne sont pas nécessairement. Il n'a pas une tonne de points avec les Rangers de Kitchener, même s'il a 27 points en 28 matchs.
Je pense que l'an prochain, on pourra le juger à sa juste valeur.
Exactement.
Est-ce qu'il va jouer en Ligue américaine, par contre, parce qu'il va avoir une moitié de saison à 19 ans, puis après ça...
J'ai l'impression que le Canadien va le laisser encore avec les Rangers de Kitchener.
Je pense que oui. Donc, rappelons que Philippe Messard est un joueur de petite stature, 5 pieds 9, 176 livres. Il va peut-être grandir encore. Il va peut-être pogner 5 et 10, 5 et 11 dans 2 ans.
J'ai 5 et 10 ici sur Elite Prospect.
Peut-être c'est 5 et 9 et demi, genre ma grandeur. C'est ça, c'était grandeur.
On ment un peu. On ment toujours un peu.
Oui, on se dit, moi, 5 et 9 et 3 quarts.
Non, 5 et 10.
Oui, c'est ça. Mais donc voilà, Philippe Messard. Que vont-ils devenir? Ben, on souhaite que ce soit un attaquant de top 6. Là.
J'ai l'impression qu'avec le Canadien, il va se buter à la congestion de prospects, de jeunes joueurs.
C'est peut-être ça le problème.
Est-ce qu'il va jouer ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Si Ryan Poehling est capable, alors lui aussi il sera sûrement capable. C'est ma, c'est ma lecture. C'est ma lecture de la situation.
OK, OK. Allons sur la, le troisième nom en liste maintenant, à Alex. Alexis Lafrenière.
Oh!
Ça me tente de parler d'Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière, c'est, ouais, c'est un peu plus difficile son cas parce qu'il y a pas mal plus de vécu dans la Ligue nationale que Philippe Messard, disons ça. Alexis Lafrenière, rappelons-le, fut un choix de première ronde des Rangers de New York en 2020. Donc, pendant la pandémie, Alexis Lafrenière pliait bagages vers New York. New York. Dans la grosse pomme, Alexis ne récolte pas beaucoup d'apples, justement. Donc, mange son pain pas mal trop brûlé au toaster. Faut dire qu'on l'utilise très mal. Puis ça, c'est un peu une montagne russe depuis qu'il est arrivé avec les Rangers.
Quelle utilisation les Rangers en font présentement, Gabriel?
Ben, puis ben là, c'est juste sur le troisième trio.
Okay.
Avec, là, par contre, là, sa ligne va bien ces temps-ci, avec Capo Kako et Philippe Hrithil.
Bien prononcé.
Hrithil, wow. C'est vraiment ça. Je l'aime bien, lui, Philippe Hrithil. Un joueur tchèque.
Pour emprunter une expression à Martin Saint-Louis, c'est un joueur de hockey.
Ouais. Ce gars-là, il enfile ses patins.
Ouais.
Le matin, là.
Il tape son bâton, puis il est prêt, là.
Oui, c'est un joueur. C'est un joueur.
Ouais.
Il est là, dans le vestiaire. Et sur la glace aussi. Mais bon, on parlera pas de Philippe Hrithil. On pourra quand même en parler éventuellement, mais Alexis Lafrenière est notre centre d'intérêt. Lui qui est justement un joueur. Ben, tu sais, c'est parce qu'il joue au centre, mais là, il joue à l'aile. On sait pas trop quoi en faire. Là, il joue à l'aile gauche, là. Puis c'est un ailier, finalement. Mm-hmm. On va dire que c'est un ailier dans la nationale. Mettons, mais il se tangue, puis il se développe pas comme le joueur qu'on pensait qu'il allait être. On met toujours beaucoup trop de pression sur un premier au total aussi. On a un bel exemple ici à Montréal, mais on a un exemple qui joue pas vraiment en Juraj.
On en a un autre sur avec un Kotkaniemi qu'on pourrait peut-être comparer aussi.
Ouais, troisième au total. Dans des repêchages faibles.
C'est ça que ça donne souvent.
C'est comme ça.
Il a 22 points en 48 matchs. C'est la même production que Jesperi Kotkaniemi cette année en Caroline. Ouais. Environ, là, à un point près.
Ouais. Lafrenière, elle était tellement dominant dans le hockey junior. C'était ridicule. Autant sur la scène internationale, le championnat du monde junior, c'était une fusée. Il y avait des mains aussi fluides. Tu sais. Oui, OK, Connor Bedard est sur une classe à part, mais il y avait certains flashs similaires là, à l'époque où Alexis Lafrenière jouait junior. Puis ben, il ne répond pas aux attentes. Faut comme c'est pas encore, on peut pas encore dire que c'est un flop, mais à 21 ans, presque 22.
Ben, ce sera pas ce à quoi on s'attend d'un premier choix au total.
Non, si
parce qu'on s'attend toujours à un joueur de franchise, mais force est d'admettre que finalement c'est une fausse 5 ans peut-être.
Non, exact. T'sais, Owen Power, mettons, je pense pas que ça va être un joueur de franchise, ça va être un bon défenseur top 4 là, mais je pense pas que ça va être.
Ah, je pense qu'il va être bon. On pourrait dévier sur Owen Power et Rasmus Dahlin.
Ah, mais là Dahlin c'est autre chose. Dahlin c'est autre chose, mais
ben ça a été long aussi Dahlin, hein.
Ben ça a été long parce que le Buffalo n'a pas de club. Là les Rangers ont un Christifié de bon club. Tu te dis OK, Lafrenière, on va lui donner du temps en avantage numérique, c'est sûr qu'avec un Panarin, un moment donné, Zibanejad, il va produire Kreider, etc. Finalement, ça lève pas. Pas en tout.
Pas du tout. Hein. Je me demande comment lui prend la situation.
Je sais pas. Ouais. Écoute, il avait pas demandé un peu aussi à être échangé ou je sais pas trop. Il y a comme eu une certaine querelle avec l'autre, là. L'autre mot, t'as dit. Je me rappelle plus de son nom. Voyons, il y a un nom francophone, mais c'est pas un francophone. Là.
Gérard Galland.
Il y avait eu quelques disputes avec Gérard. C'est sûr que quand tu joues pas assez, tu veux du temps de jeu. T'es un jeune joueur qui a besoin de se faire la dent, tu sais. Là, il est encore ses dents de bébé, mettons. Mm-hmm. À 21, c'est pas normal. Mm-hmm. mettons. Mais par contre, faut quand même mentionner que les Rangers ne développent pas bien leurs jeunes dans les dernières années.
Non.
Pareil pour Capo Kako qui joue sur sa ligne. C'est un troisième au total ou deuxième, puis il n'y a pas de meilleure fiche, il n'y a pas de meilleure statistique que Lafrenière, pas plus de temps de jeu non plus. Même chose pour Hrithil, là, ça vient de débloquer, mais écoute, c'est un 15e ou 16e au total, puis. Ça lève pas non plus.
C'est difficile pour un joueur de se faire justice quand le temps de glace est de 12 minutes avec presque pas un 30 secondes de power play par avantage numérique.
Qu'est-ce que tu veux faire avec ça?
C'est presque impossible, en fait, d'avoir de l'offensive, de générer de l'offensive naturellement sans forcer.
T'as deux fois moins de temps sur la glace que tes coéquipiers sur les premiers trios.
C'est pas facile de se faire justice. On lui souhaite, par contre.
Ouais, quand même. OK, Alex, on va finir le triptyque hockey de que vont-ils devenir avec Un autre joueur au profil similaire à Philippe Méchard, et je nomme Sean Farrell. Sean Farrell.
Un autre espoir du Canadien.
Ouais, un autre espoir du Canadien qui joue en ce moment aux États-Unis. Sean Farrell est né en 2001. Il a 21 ans, donc le même âge que Alexis Lafrenière. Il est né à Hopkinton, dans le Massachusetts. Il joue en ce moment pour l'université de Harvard. Donc, il ne joue pas en NCAA, mais il joue sur le réseau universitaire américain. En ce moment, il domine complètement ses comparses. 34 points en 21 matchs. 22 assistances en 21 matchs. Fait que quand même, ça distribue des caviars, notre Sean Farrell.
Et pour ceux qui ne le savent pas, jouer là, dans les collèges américains, là, il y a plusieurs joueurs qui ont 24, 25, ouais. 26. C'est quand même assez physique.
Oui, ça brasse.
C'est difficile de se faire justice à un aussi jeune âge. Quand même, 28 points à sa première saison, on a déjà 34 en 21 matchs.
Ouais.
Bon, est employé à toutes les sauces, évidemment. C'est le joueur d'utilité de son équipe. Personnellement, j'ai l'impression que Sean Farrell va percer l'alignement des Canadiens plus tôt que tard, ou il va faire partie d'un échange parce qu'il va avoir une certaine valeur.
Et je m'en allais exactement là, parce qu'il va avoir, comme tu l'as dit tantôt avec Méchard, une congestion à un moment donné. Tu peux pas faire jouer autant de joueurs talentueux sur 12 spots.
Il va avoir des choix à faire. T'sais, on a vu Owen Beck jouer la semaine dernière. Il était capable de jouer bien, plus que bien, dans la Ligue nationale de hockey. Sean Farrell pourrait rejoindre le Canadien en passant à la fin de sa saison universitaire.
Exact. Ça finit un petit peu avant la saison dans la Ligue nationale.
Ouais, exactement. Tout dépendant quand est-ce que son équipe est éliminée du tournoi de fin d'année.
Ouais,
qui est le Frozen Four. Alors Sean Farrell, comme Jordan Harris le fait, comme Cole Caulfield le fait également,
comme Ryan Poehling
Ryan Poehling avec ses 3 buts. C'est un beau match, par contre, vraiment, c'est une belle soirée.
C'était 4
avec le but en fusillade.
C'est ça.
Sean Farrell pourrait rejoindre le Canadien, puis c'est toujours une belle période d'évaluation, surtout que si ça se continue, ben en fait, si les échanges peuvent se conclure, le Canadien n'aura pas beaucoup de vétérans dans son équipe.
Non.
Il va peut-être manquer de joueurs un peu, alors on va sûrement avoir besoin de Sean Farrell et compagnie.
Clairement. Même gabarit que Philippe Méchard, hein, Sean Farrell, c'est encore là le point d'interrogation pour...
5 et 9, 175.
C'est exactement. Peut-être un demi-pouce de moins que...
Ça dépend toujours de la personne qui te mesure, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça.
Ou du galon à mesurer.
Avec qui tu te mets dos à dos.
C'est ça.
Mais ouais, c'est ça. Mais donc, ouais, Sean Farrell. Je pense que ça va être un excellent joueur, mais dans une autre équipe. J'ai comme un feeling qu'on va pas le garder. Ou en tout cas, lui ou Messard, surtout qu'on a déjà un petit club, là. Caulfield, Suzuki n'est pas full grand.
Est-ce qu'Harvey Pinard va avoir sa chance avant lui? Parce que c'est difficile de tasser Raphaël Harvey Pinard aujourd'hui.
Roy, aussi. Donc Joshua Roy, Caulfield, Suzuki, Farrell,
Owen Beck,
Philippe Messard, Slavkovski, il va jouer ça à 4.
Les 4 choix de première ronde qu'on va avoir cet été.
Non, ça n'a pas de bon sens.
C'est difficile de prévoir qui va réussir à faire sa place, mais prenons les meilleurs, puis les autres feront partie d'échange.
Tout à fait.
Mais Raphaël Harvey Pinard, si on pouvait en parler tout à l'heure, un petit 5 minutes.
On va s'en garder un moment. Parce que c'est quand même impressionnant ce qu'il
fait.
Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Qui d'autre sur ma liste? Hey, on change de sport.
Oui.
Football.
Oui.
Américain.
Oui.
Parce qu'on a parlé de foot européen, fait qu'on
fait le
retour. C'est assez, ouais, c'est ça. OK. Alex, est-ce que tu as écouté les matchs éliminatoires?
Oui.
Ouais. Les deux matchs des 49ers, on a eu la chance de voir Brock Purdy. Brock Purdy.
On l'a très peu vu, par contre, dans le dernier match.
Là, c'est clair.
C'était assez décevant.
Donc, son moment de gloire, ce fut contre les Cowboys de Dallas, quand même. Brock Purdy, qui est venu en relève, c'est le troisième carrière, techniquement, dans l'équipe, après Trey Lance, qui s'est blessé en début de saison, puis Jimmy Garoppolo, qui est comme un vétéran dans cette équipe-là. Donc, Brock Purdy a pris la relève, puis a très bien fait, fin de saison, et ben, en série éliminatoire, a amené les 49ers.
Vraiment impressionnant.
Ah, puis je pense qu'il y avait quand même une chance de gagner là, les 49ers si Purdy se blessait pas. Bref, ce n'était pas le cas. Les 49ers ont perdu. Puis Brock Purdy, je sais pas qu'est-ce qu'il va devenir, parce que là, c'est comme un peu le deuxième carrière dans l'alignement des 49ers, parce que Trey Lance va revenir en début de saison.
Ce n'est pas un haut choix repêchage non plus, comme Trey Lance est.
Septième ronde, je crois.
C'est Mr. Irrelevant, comme on dit dans la NFL. C'est le dernier choix du repêchage.
Ah ouais, en plus. Wow. Tu vois, ça, je savais pas. Brock Purdy, là, pensez à ça, Tom Brady, Brock Purdy. Même nombre de syllabes, pas repêché.
Il est arrivé
loin,
un peu dans les mêmes circonstances, en relève, non.
Ah ouais, ouais.
Non. Mais vraiment, il est vraiment impressionnant dans sa gestion du ballon, surtout pour un jeune qui supposait être troisième carrière.
Ouais.
Sa gestion du ballon, sa gestion aussi du match. Garde son calme, peu importe le score.
Pour vrai, contre les Cowboys, puis une défensive qui est très agressive. Ouais. C'est une des meilleures défensives de la ligue. Il a très bien fait. Puis il bouge bien énormément. Il reste pas dans sa pochette, mais il a même pas besoin de courir. Il a tellement un bon bras, canon en plus.
Beau sens d'anticipation aussi pour sortir de sa pochette.
Ouais, vraiment.
Mon impression, c'est que ça va être un carrière partant pour les 49ers.
Ah ouais?
Pour plusieurs années.
Ah ouais? Qu'est-ce qui va se passer avec
celle-là, ça va dépendre de sa blessure.
Ouais.
Tu sais, sûrement qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à la gravité de sa blessure, mais quand un carrière t'en donne autant aussi rapidement, j'ai l'impression que tu veux continuer à surfer cette vague-là.
Ouais,
au lieu de revenir à Trey Lance de toute façon, Garoppolo va sûrement rebondir ailleurs. Ouais. Mais pourquoi y aller avec Trey Lance quand il n'a pas montré grand-chose?
Non, on pourrait changer Trey Lance, effectivement, un club comme les Colts qui ont énormément besoin de...
Les Colts, les Texans, les Raiders.
Les Titans aussi, Ryan Tannehill, Colin, laissez-moi ça au vidange, s'il vous plaît.
Il y avait beaucoup de mauvais carrières cette année.
Ouais, effectivement. Hey, c'était difficile pour les poolers qui nous écoutent, mon Dieu. Si tu ne repêchais pas...
Si
tu
n'avais pas Mahomes, c'est fini.
Non, ben tu sais, il y a peut-être...
Ben tu sais, Herbert était bon, Mahomes était bon, ouais.
Sept noms là, qui sont dominants, mais sur 30 clubs,
il y avait moins de 30% des carrières qui valaient la peine.
Ouais. Tu sais, Trevor Lawrence, belle surprise. Daniel Jones aussi, belle surprise. Mais plus loin, c'était difficile. OK, Odell Beckham Jr. Hein? OBJ.
Ça fait un an qu'il n'a pas joué, là.
Ça fait un an qu'il n'a pas joué. Ça fait un an, jour pour jour presque, parce que c'était au Super Bowl avec les Rams.
Ne rejouera jamais.
Tu penses? Il y a 30 ans.
Il y a eu beaucoup de... Ouais, 30 ans pour un receveur.
Mais pour un receveur, c'est pas si vieux.
C'est pas si pire, mais raté une année.
Avec un torn ACL, avec un ligament croisé intérieur.
C'est difficile d'évaluer, est-ce qu'il va garder sa forme physique? Est-ce qu'il va être encore aussi athlétique? J'ai l'impression qu'il ne reviendra pas. Il y a eu des occasions de revenir cette année, il les a pas prises.
Écoute, est-ce que c'est lui qui l'a pas pris ou les clubs, on sait pas. Je sais. Il y a eu des offres techniquement. Je pense que les Cowboys étaient intéressés à un certain moment après la date limite ou en tout cas au tournant de la date limite des transactions, qui vient d'ailleurs beaucoup trop tôt, on va se le dire, au football américain. Je sais pas. Moi, je pense qu'il va jouer. Je pense qu'il va jouer pour un club. Hey, les Jaguars, j'aimerais tellement ça.
Je pense que ça va y prendre beaucoup d'argent pour le convaincre de revenir jouer. Qui va pouvoir lui donner cet argent-là? Il y a plusieurs clubs qui ont beaucoup d'espace sous la masse, mais est-ce que c'est ces clubs-là qui vont tenter leur chance avec un Odell Beckham qui revient d'une sabbatique d'un an, blessé?
Mais un club comme les Bears, là, qui manque cruellement de receveurs, puis qui ont un Justin Fields qui n'est pas exploité, pourquoi pas? Essayez ça. Je sais pas.
On vous le dit, les Bears, il y a une occasion aussi, une occasion d'affaires.
Les oursons, les sites, là. Ouais. Odell Beckham Jr., quand même, un visage marquant de la NFL dans les 5-10 dernières années. Fait que,
pour des bonnes, des mauvaises, raisons. Surtout des mauvaises.
Mais c'est ça, exactement. OK, Alex. On va parler de... Parce que j'avais mis Isaiah Pacheco dans la liste qui joue pour les Chiefs, qui va jouer au Super Bowl la semaine prochaine, mais il est un peu plate. Fait que, je vais faire ça. Jadon Sancho, on s'en va au foot européen.
On fait un retour surprise au foot européen.
On va y aller très vite.
C'est pas facile pour Jadon Sancho de faire sa place avec Manchester United. Des blessures. Il y a eu d'autres signatures de joueurs. J'ai l'impression que l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il y a de cela 2 ans déjà. Un an et demi. Un petit peu plus d'un an et demi. Cristiano... un volume de jeu assez significatif. Prend beaucoup le ballon, fait beaucoup d'appels. J'ai l'impression que la conjoncture du jeu de Manchester United ne correspondait pas au jeu à Jadon Sancho. Est-ce qu'il va réussir finalement à enchaîner des matchs?
Ouais, c'est ça l'affaire.
Aller chercher sa forme qu'on lui connaissait à Dortmund?
Puis il est déjà rendu à 22 ans. Ouais. My God, je suis sûr qu'il avait encore 19-20, tu sais, mais... Ouais, là, ça commence. Il est minuit moins une.
Ouais. Ben, mini-moyenne. Quand même, je pense, pour avoir une belle carrière dans un autre club que Manchester United, mais ils ont quand même payé une somme de 100 millions pour aller le chercher.
Ben, c'est pour ça. C'était un des joueurs les plus en vogue dans les dernières années. Puis,
c'est un international encore. Fait toujours partie de l'équipe anglaise.
Il n'a pas joué.
Pas joué.
C'est ça le hic.
Il n'avait pas les arguments pour jouer non plus.
Ben non, c'est ça. Bref, un wonder kid, hein? Une merveille, une pépite qui tarde à éclore. À chaîner, à briller.
À devenir adulte, peut-être.
Il faudrait le polir un moment donné, là, ce diamant-là.
Ben, mon impression, c'est que Jadon Sancho à Manchester United, s'il n'est pas capable d'enchaîner les matchs parce qu'il y a congestion, ça va être difficile pour lui de...
Il va jouer en France, on retourne en Allemagne, je sais pas. L'Espagne! Pensez de jouer. Je la trouve sous-estimée, l'Espagne.
La Liga, depuis que Messi et Ronaldo sont partis...
Ah, c'est tellement le fun!
Ben, c'est le fun, mais il y a eu de moins en moins de transferts entrants.
C'est vrai. Mais on développe beaucoup d'excellents jeunes, quand même. Justement, parlons de la Liga avec Pedri. Une autre excellente pépite. Barcelone, milieu offensif, qui fait littéralement tout sur le terrain. Je le trouve excellent aussi dans son repli défensif et dans son marquage. Bonne couverture. Il n'est pas un gros gabarit, effectivement, mais lui aussi une étiquette de prix de 100 millions.
Ouais.
Donc c'est ça le dénominateur commun entre lui et Jadon Sancho.
L'impression qu'il va rester à Barcelone pour les 10 prochaines années.
Ça va être un Iniesta et un Xavier Hernandez.
Il a un peu cette... je dirais pas qu'il offre ce volume de jeu-là sur le terrain. Il n'a pas non plus... Il shine pas autant que ces gars-là, mais Barcelone a l'habitude de garder les joueurs qu'il développe.
Quand même.
Alors, j'ai l'impression qu'il va être là longtemps, va dominer. Il a toute la latitude pour aussi être un joueur influent à l'intérieur du FC Barcelone.
Ouais.
Et quand il a l'occasion de faire de l'argent pour le FC Barcelone, on ne l'a fait pas. Alors, pourquoi le vendre 100 millions?
C'est vrai, c'est pas arrivé
dans les dernières années. Alors, il va rester au FC Barcelone. Ça va être un joueur pour l'équipe nationale d'Espagne durant la prochaine décennie.
Ou il va signer à Chelsea puis il va se perdre dans l'alignement.
Oh, c'est...
Comme le prochain nom sur la liste, Joao Félix. Joao Félix, le jeune portugais, qui est la sensation montante, une vedette.
Mais c'est un parcours moins en ligne droite qu'on l'aurait imaginé. C'est pas pour rien que l'Atlético Madrid le prête à Chelsea.
Ah, puis je le trouvais très frais à la Coupe du Monde.
Ouais. Ouais, c'est il y a eu beaucoup de hype. Bon,
beaucoup d'attentes
à l'entour de Joao Félix. J'ai pas l'impression qu'il va pouvoir répondre à ces attentes-là. Surtout s'il commence à se promener de club en club.
C'est clair.
Parce que là, des prêts, ça peut devenir difficile à gérer. Là, un prêt perd un petit peu de valeur. Là, eux vont vouloir peut-être retrouver cette valeur-là, donc peut-être le faire jouer et le reprêter après.
Ouais.
Ça devient complexe des fois à suivre ces carrières-là.
Effectivement. Tu voulais qu'on garde qui pour la fin, Alex, tantôt?
J'ai un blanc. Raphaël Harvey-Pinard,
ben oui, qui casse tout depuis son rappel avec le Canadien de Montréal. Franchement... RHP, comme on le surnomme, parce qu'il y a quand même un long nom, on va le dire.
Raphaël Pinard ou Raphaël Harvey.
Ça aurait été le fun, mais... Raphaël Harvey Pinard a quoi? 2 matchs déjà de 2 buts.
Ouais.
2 doublés. 6 points en 7 matchs. Qu'est-ce que tu veux dire dessus? Moi, je veux dire, il mange les bandes. C'est un Steve Bégin talentueux.
Il est actif. Un petit peu plus à la Brendan Gallagher qu'à la Steve Bégin.
Mais il y a un peu le même profil de on se met le nez dans la brousse.
Ouais. Et qu'est-ce qui me dérange un petit peu là, à l'entour de Raphaël Harvey Pinard, c'est qu'on entend plusieurs commentaires de nos médias traditionnels qui se demandent s'il devrait faire le club l'an prochain et plusieurs répondent non. Comment tu peux tasser un joueur comme ça de ton alignement? Comment tu peux ne pas le considérer comme un joueur assuré de faire l'alignement l'an prochain? Je comprends pas.
De soutien, tu sais, sur une troisième ligne, là, j'ai pas de problème à mettre Raphaël Harvey-Pinard.
Ben, facilement. J'ai l'impression qu'il est en train de gagner ce poste-là. Et si on lui donne pas, après des performances de la sorte, à qui on va le donner?
Ben, c'est ça.
Quel message t'envoies à tes jeunes, finalement?
Qui n'ont pas de place dans l'alignement, peu importe leur performance.
Parce que, est-ce qu'on veut RHP ou Evans en ce moment?
On veut
clairement Raphaël Harvey-Pinard. Est-ce qu'on veut Armia? Est-ce qu'on veut Hoffman? Il n'a pas les mêmes qualités que ces gars-là, mais clairement, il est plus efficace sur la patinoire.
Tout à fait. Fait un peu penser à Paul Byron.
Il y a un petit peu de tout.
Il y a moins de coups de patin que Paul Byron, mais quand même, ce genre de profil-là.
Et il a déjà 23 ans, je crois. 23 ou 24.
Il a 24. Il vient d'avoir 24, lui aussi, en janvier.
Tu sais, c'est le genre de joueur qui a une game difficile sur son corps. Je pense pas que c'est le genre de joueur, de joueur que tu peux laisser traîner. Quand je dis traîner, c'est péjoratif, là, mais que tu peux laisser en bas trop longtemps dans la Ligue américaine parce qu'ils finissent par s'essouffler aussi.
Effectivement, effectivement.
Je pense qu'il faut profiter du meilleur de Raphaël Harvey-Pinard. En ce moment, il nous donne son meilleur. C'est même pas proche d'être juste 98%. C'est 100% de ce qu'il y a qu'il donne aux Canadiens. Qu'est-ce que tu veux de plus, finalement?
C'est un gars de ton coin, en plus.
Un petit gars de Jonquière a joué pour les mêmes équipes de hockey que moi. Ben, pas en même temps, évidemment, là, mais...
T'as joué pour les Saguenayens, toi?
Allez, non, pas les Sag, non. Non, j'ai arrêté avant. Mais la même polyvalente, les mêmes équipes. Puis je suis vraiment content pour ces clubs-là aussi, c'est souvent des bénévoles. D'avoir un petit peu un jeune qui est capable de percer aussi loin. De jouer pour le Canadien, surtout, c'est assez impressionnant.
Mm-hmm.
Mais tout le mérite revient à Raphaël, là, qui est un travaillant incroyable.
C'est clair. Il a fait son chemin.
Oui, vraiment, c'est vraiment impressionnant.
Rouler sa bosse, puis on lui souhaite de rester dans l'alignement jusqu'à la fin de la
saison. Comme nous autres, tu sais, on roule notre bosse, on essaie de rester dans l'alignement aussi. Pas facile.
C'est tout pour Conduite Antisportive, édition du jeudi février. Merci, Gabriel. Merci à toi, Alex. C'est toujours un plaisir. Et on se voit la semaine prochaine, jeudi prochain, même en même poste. Yes.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Votre festival déjanté préféré est de retour du 10 au 18 février 2023. Cette année, le FOCOF reçoit en grand. Ce sont près de 100 artistes qui fouleront les scènes de la ville de Québec. Retrouvez entre autres Vanille, Velours Velours, Metz, Fudge, The Winston Band, Margaret Tractor, Jonathan Pearson.